Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Et on s'est rendu compte qu'en fait, la force des femmes, quand on les mettait ensemble, c'était quelque chose de puissant, c'était quelque chose de beau. L'une des influences les plus importantes a été ma maman, Laïa Rahma. Ma maman a joué un rôle clé dans mon parcours. Mais de dire combien elles sont fortes, combien elles sont belles, combien elles sont reines, et d'aller jusqu'au bout, quoi. La vie est trop précieuse pour la gâcher. Donc, déployez votre potentiel et rêvez.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision, et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invité aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée donc ce vendredi 8 mars, je reçois Fatema Zibouh, docteur en sciences politiques et sociales, conférencière, mais aussi engagée depuis 20 ans au sein de la société civile bruxelloise et experte sur les questions de diversité et inclusion. Fatema Zibouh, bonjour, un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans Job Story et surtout à l'occasion du 8 mars.
Merci beaucoup Karima, c'est véritablement un honneur de pouvoir participer à votre émission, dont j'adore le concept.
Merci beaucoup.
Dans mon pays d'origine que j'aime tellement, le Maroc.
Tout le plaisir est pour moi, Fatema Zibouh. Alors, on le sait déjà, toute carrière a en quelque sorte un point de départ, le jour où tout a commencé. Partagez le vôtre avec nous. Comment tout a commencé pour vous sur le plan professionnel, vos premiers pas dans cet univers ?
Waouh, c'est une bonne question et à vrai dire, je n'y ai jamais véritablement pensé. Je pense que tout part d'une rencontre. La vie est faite de rencontres, de déclics qui vous orientent dans des chemins dont vous-même, vous n'avez jamais imaginé et qui dressent les contours d'un parcours. Et je crois que l'on doit beaucoup à nos parcours professionnels, à ces rencontres qui créent ces déclics. Et je pense tout particulièrement... en ce qui me concerne, à un professeur de l'université, qui est devenu mon directeur, le directeur de ma thèse de doctorat.
D'accord.
Je pense également à mon professeur de français au lycée, qui a aussi joué un rôle très très important dans le fait d'ouvrir le champ des possibles. Et aussi, c'est toutes ces rencontres qui, au quotidien, ces héros et héroïnes de l'ombre, qui m'inspirent chaque jour.
Et donc, vous pensez, déjà vu qu'on en parle actuellement, Fatema Zibouh, que c'est important justement ces personnes qu'on rencontre tout au long de notre carrière, de notre parcours, de rester un petit peu, ouvert aux avis des autres, aux propositions, etc. Et de ne pas se renfermer dans une boîte en quelque sorte et rester entêté un petit peu sur notre orientation. Est-ce que vous pensez que c'est important de rester ouvert justement ?
Oui, je pense qu'il faut vraiment être attentif et dans l'ouverture de la rencontre des uns et des autres, et tout particulièrement de ceux qui nous inspirent. Je pense qu'il est important de se poser la question, de se demander, quelles sont les personnes qui aujourd'hui m'inspirent. Et en réalité, vous allez très vite comprendre que les gens qui vous inspirent sont les gens à qui vous voulez ressembler. Parce qu'elle reflète les valeurs que vous portez et elle reflète surtout quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, mais qu'on ne réalise pas toujours. Et j'ai vraiment envie de vous le partager. C'est quelque chose qui me tient fortement à cœur et qui a changé ma vie. C'est la mission de vie. En fait, on a toutes et tous une mission de vie qui nous anime. On est né avec une mission de vie. Le problème est que souvent, soit on l'oublie, soit on ne la réalise pas. On ne se pose pas la question de savoir... Moi, c'est quoi ma mission ? Et quand on la découvre, il y a quelque chose de magique qui se passe.
Donc, vous avez découvert votre mission. C'était quoi, votre mission, Fatema Zibouh ?
Alors, c'est une question... ce n'est pas aussi facile qu'on ne le pense. Ça m'a pris du temps avant de la définir. Quand on est enfant, il y a cette mission de vie qui est en nous. Mais puis après, avec les années, on l'oublie. L'éducation va nous envoyer vers tel chemin. Nos parents vont nous pousser vers tel chemin. Et puis, on va s'éloigner de plus en plus. Et puis, ce qui va se passer, c'est que... on va ressentir une forme de malaise, de décalage avec ce qu'on fait et ce qu'on est. Et puis, à un moment donné, quelqu'un m'a parlé de cette mission de vie. C'était le président de mon université, dans un programme de leadership, qui m'avait tendu une feuille et qui m'avait dit « Mais tu me vas m'écrire en une phrase, quelle est cette mission que tu as pour ta vie ?» Et je me suis rendu compte à l'âge de 39 ans que je ne m'étais jamais posé cette question. Et en discutant avec des gens autour de moi, il y a des personnes qui ont 40, 50, 60 ans, qui ne se sont jamais arrêtées à ça. Et c'est un processus qui a mis un an avant de la trouver, parce qu'en fait, il faut véritablement enlever toutes les couches de superficialité pour la retrouver. Et quand on la retrouve, c'est magique. Et moi, je me suis rendu compte que ma mission de vie était en fait quelque part d'améliorer le monde en créant des connexions entre les différents univers culturels et sociaux, avec une attention particulière pour les personnes les plus fragilisées, les sans-voix. C'est quelque chose qui m'a toujours animée. Je vis dans un contexte très multiculturel, très diversifié. Bruxelles est la ville la plus diverse d'Europe, la deuxième ville la plus diverse au monde. Mmh. Et donc c'est un lieu où il y a des brassages incroyables, mais le problème c'est qu'en réalité, la plupart des personnes restent entre eux. Il y a trop d'entre-soi, que ce soit au niveau des milieux sociaux, donc les milieux privilégiés restent entre eux, les milieux populaires restent entre eux. Et moi, ma mission, c'est de créer des ponts entre ces univers et surtout ceux qui n'ont pas de privilèges. Je crois que ça, c'est vraiment ce qui m'anime depuis toujours.
Et d'ailleurs, vous avez à votre actif Fatema Zibouh plus de 20 ans, notamment au sein de la société civile. D'où vous vient cet engagement ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en vous déjà étant plus jeune et que vous avez décidé de, en quelque sorte, concrétiser ou voilà, militer en faveur de la société civile ? Ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure du temps ?
Comme je vous le disais, on l'a depuis toujours, mais on ne le réalise pas. Ouais. Et donc c'est vrai que dès que j'étais enfant, même pendant que j'étais ado, j'étais vraiment révoltée par les questions d'injustice. C'était quelque chose qui était viscéral. Dès que je voyais une injustice, c'était quelque chose où il y avait en moi cette flamme qui nécessitait une responsabilité qui me poussait à l'action. Je me souviens qu'il y a 25 ans, je voyais à la télévision, mon père regardait Al Jazeera, et je voyais un conflit dans un pays que je ne connaissais pas, c'était la Tchétchénie à l'époque. Il avait été vraiment frappé par tous ces orphelins victimes de cette guerre, et je m'étais dit, mais il faut absolument que je fasse quelque chose. J'avais été voir une ONG qui me disait, oui, mais j'avais 16-17 ans, et ils me regardaient un peu en comprenant pas trop bien, ils m'ont pas pris au sérieux, et j'ai quand même organisé une journée où j'ai récolté des fonds. À l'époque, c'était 100 000 francs belges, donc 2500 euros, et j'ai été avec l'ONG en disant, mais voilà, avec cet argent-là, j'aimerais que vous les fassiez parvenir à ces familles.
C'est tout à votre honneur, en tout cas, Fatema Zibouh. Et c'est, voilà, comme vous l'avez dit, chacun à son échelle. Il suffit de mettre la main à la pâte. Il suffit d'un tout petit pas, des fois, ça peut faire la différence.
Tout à fait, tout à fait. On ne doit pas négliger ces petites gouttes qui font l'océan. Je pense qu'on est tous et toutes acteurs et actrices de changement, chacun à notre niveau. Et il ne faut vraiment pas sous-estimer ne serait-ce que la prière, l'invocation, les good vibes, avoir une pensée profonde, ça participe aussi à cet univers qui va vers quelque chose de meilleur, la rencontre, un sourire aussi vers l'autre. On peut tous et tous aider les gens à notre niveau, à notre manière. C'est cette fameuse histoire du colibri que vous connaissez peut-être. Où il y avait un feu dans une forêt, et tous les animaux fuyaient de cette forêt. Et il y avait un petit colibri qui prenait avec son petit bec de l'eau de la rivière pour essayer d'éteindre l'océan. Et le lion qui le regarde lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Et le colibri lui dit, j'ai fait ma part. Je crois que c'est ça.
Joliment imagé. Et Fatema Zibouh, vous avez fait donc de votre engagement une carrière, un mode de vie limite. Vous avez fondé le Women 100, donc un réseau de 100 femmes inspirantes bruxelloises issues de toutes les diversités. Rapprochez-nous un petit peu de cette initiative en faveur des femmes.
Oui, alors c'est une initiative que j'ai cofondée avec deux femmes formidables. Ça venait d'une autre expérience que j'avais cofondée en 2011 qui s'appelle J1000, qui a consisté à réunir 1000 citoyens belges tirés au sort pour l'avenir du pays. Et là, en fait, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant, dans une ville aussi diversifiée que Bruxelles, de créer un espace où on essaierait d'identifier 100 femmes, 100 femmes leaders, 100 femmes actrices de changement, qui habitent un même territoire, et donc là c'était Bruxelles, donc 100 femmes bruxelloises, qui étaient leaders. Et pour nous, leaders, c'était pas nécessairement être CEO, c'était pas nécessairement être chef d'entreprise ou présidente d'une ONG. Pour nous, en fait, une leader, c'était toute femme qui essayait de faire quelque chose pour contribuer au mieux. Alors, ça peut être effectivement quelqu'un qui est membre d'un comité de direction du multinational, mais ça peut aussi être cette maman qui fait des sandwichs pour les personnes en situation, pour les sans-abri, ou ça peut être, enfin, vraiment, c'était au sens très, très large. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la force des femmes, quand on les mettait ensemble, c'était quelque chose de puissant. C'est quelque chose de beau. La sororité amène de la joie. C'est vrai. Quand on met des actrices de changement ensemble, je vous dis pas, c'est exceptionnel. Et donc l'idée, c'était de voir. Et franchement, c'est quelque chose dont je rêverais qu'on puisse dupliquer le modèle dans d'autres villes dans le monde, et pourquoi pas au Maroc. C'est en fait une méthodologie qui consiste à choisir un espace, donc on va dire par exemple Tanger ou Rabat ou un petit village, identifier 100 femmes, mais 100 femmes qui font la différence, 100 femmes qui bougent, 100 femmes qui contribuent, et d'essayer surtout de faire en sorte qu'elles soient le plus diversifiées possible. Ça veut dire qu'elles viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, d'âge différent, d'origine sociale différent, que ce soit des femmes éduquées ou des femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, et d'essayer de les mettre ensemble et puis de réfléchir aux problématiques communes. Et la première rencontre qu'on avait faite avec ces femmes à Bruxelles, c'était de réfléchir sur la question des inégalités. Et c'était vraiment passionnant de voir comment la question des inégalités était perçue de façon différente en fonction de là où on était. Et de là, c'est devenu un réseau. Et de là, en fait, qui était formidable, et ça participe vraiment de cette mission de vie dont je vous parlais. Ouais. On crée des connexions avec ces femmes différentes, et de ces rencontres naissent, il y a des graines, et de ces graines naissent des projets. Et de ces projets naissent des choses encore plus positives, c'est la synergie. Et comme le disait Henry Ford, tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin, et c'est ça qui est en train de se passer. On crée une communauté de personnes qui avancent vers plus d'égalité, plus de justice sociale, plus de solidarité, et on ne doit pas sous-estimer la force du réseau, la force de mettre les femmes ensemble, parce que ça mobilise des ressources énormes, et les ressources, elles ne sont pas que financières.
Bien sûr.
C'est aussi les ressources humaines, le réseau, le capital social, enfin, c'est toute une, c'est des idées, c'est la diversité, des intelligences aussi, l'intelligence collective, j'y crois très très fort, c'est extrêmement puissant, et puis tout simplement, c'est humain et c'est beau, on rit. On danse, on chante, on s'amuse, c'est de la joie et c'est important.
En tout cas, je trouve le concept exceptionnel. Fatema Zibouh, vous avez d'ailleurs l'ambition de lancer ou de dupliquer cette initiative au Maroc. Est-ce que vous avez commencé à le faire, ou est-ce que c'est une idée pour l'instant qui est en train de grandir petit à petit ?
Donc pour le moment, c'est juste des échanges informels que j'ai eus avec des femmes leaders au Maroc, comme j'en ai eu avec d'autres femmes en Turquie ou dans d'autres pays d'Afrique. Donc ce sont des échanges, je pense que le modèle est intéressant, donc c'est une méthodologie qui est assez détaillée, qui s'inscrit dans de l'inclusion radicale. L'inclusion radicale, c'est surtout faire en sorte que les personnes qu'on ne voit pas souvent autour de la table soient aussi dans la discussion, c'est de faire en sorte que nous sortons nous-mêmes de nos entre-soi, parce qu'en réalité, je ne sais plus qui disait que on est la moyenne des 5 personnes les plus proches, et en fait les personnes les plus proches sont souvent des gens qui nous ressemblent. Ça veut dire qu'il faut aussi faire le pari d'aller rencontrer celle ou celui qui ne me ressemble pas. Et c'est quelque chose aussi qui va nous permettre de questionner nos idées, nos a priori, pour grandir dans ce qu'on est. Et comme je vous le disais, l'un de mes rêves, mais avec aussi les personnes avec qui j'ai confondu ce mouvement, avec Johanna, Loredana, Karen, Tania, Kasia, et toutes ces femmes formidables, parce que c'est important que quand on est dans un projet, on ne le porte pas seul, mais on le porte aussi en collectivité.
Tout à fait d'accord.
Eh bien, mon rêve, c'était toujours de dire, mais qu'est-ce que j'aimerais que dans mon pays d'origine, le Maroc que j'aime, on puisse créer quelque chose de similaire. J'en ai parlé aussi à Kinshasa également. Et là, on pourrait le faire, par exemple, on imaginerait que s'il y a des auditeurs auditeurs ou des auditrices qui intéresseraient, mais qui n'hésitent pas à me contacter pour qu'on puisse y réfléchir ensemble. Mm-hmm. Imaginons qu'on prenne des femmes qui viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest du Maroc, qu'on essaye de prendre des femmes avec cette méthodologie diversifiée en termes d'âge, de capital scolaire, d'origine sociale, etc. Mm-hmm. Et qu'on réfléchisse sur un enjeu commun autour des questions qui touchent les femmes les questions qui touchent les femmes, on les trouve partout dans le monde. Hein, la question de l'égalité, la question du respect de sa dignité, la question des violences, la question du travail. Hein, les femmes, mm-hmm. elles sont confrontées à plus de discrimination et on le sait très très bien. La question de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Ah, oui. La question de l'espace public aussi. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on est femme dans l'espace public sans être touchée par du sexisme, sans être... Les questions de liberté, elles sont essentielles. Ce sont des questions qu'on va nous-mêmes définir. Pas en fonction d'un standard occidental ou que sais-je. Non, c'est nous qui allons définir ensemble la façon dont on veut définir notre destinée commune.
En tout cas, l'appel est passé, Fatema Zibouh, et j'espère vraiment que ça se fera dans le futur très proche. En tout cas, sur une note cette fois un petit peu plus personnelle, Fatema, tout au long de votre carrière, de votre parcours, quel a été le rôle de votre entourage, de vos proches dans votre orientation, votre choix de carrière, votre engagement ou votre épanouissement professionnel? On en parle souvent dans Job Story, l'importance de l'entourage, alors que ce soit les proches, donc notre famille, nos parents, etc., mais aussi les personnes que l'on décide de faire entrer dans nos vies. Dans votre cas, quel a été l'impact ou le rôle de vos proches?
Pour moi, et chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dis, l'une des influences les plus importantes a été ma maman, la Yarahma. Ma maman a joué un rôle clé dans mon parcours. Ma maman a grandi dans un village dans les montagnes du Rif, au Maroc. Mmh. Elle n'a jamais eu la chance d'aller à l'école. Elle devait s'occuper d'une famille, devait aider ma grand-mère, 10 enfants. Et elle s'est sacrifiée sa vie pour justement aider sa maman. Et puis, elle est venue en Belgique. Elle s'est mariée avec mon papa, ici à Bruxelles. Et là encore... Elle a donné toute sa vie, elle s'est sacrifiée pour l'éducation de ses filles. On avait 3 filles et puis on a eu un garçon plus tard. Mmh. Et elle a tout donné. Et elle a vraiment sacrifié sa vie dans le sens où, vous savez, l'immigration est une expérience extrêmement difficile. Elle est confrontée, on est confronté à de la solitude, à de l'incompréhension, d'isolement. C'est vraiment quelque chose, il faut vraiment se mettre à la place de ces femmes qui n'ont rien demandé quelque part. Mmh. Et qui doivent s'habituer à un monde nouveau, du village à une capitale internationale. Et ma maman, depuis que j'étais toute petite, malgré le fait qu'elle n'a pas eu cette chance d'aller à l'école, elle nous a toujours encouragés aux études. Comme beaucoup de mamans d'ailleurs.
Oui, ça c'est vrai.
Et elle me disait, je ne veux pas que tu aies le même chemin que moi. Je veux que tu sois une femme libre, indépendante. Je veux que tu aies les outils de ta propre émancipation. Et en réalité, ma mère était quelque part féministe à sa manière. Mmh. Pas féministe au sens occidental du terme. Non, c'était quelque chose qui s'inscrivait dans des valeurs fortes de famille, de solidarité, de partage et de générosité. Et donc, elle m'a toujours encouragée. Ouais. Sa plus grande fierté était... D'ailleurs, quand j'ai écrit mon premier livre, c'était à elle que je lui ai offert. Et puis, quand on a grandi, ma maman, plus tard, à 45 ans, elle a repris le banc de l'école. Elle a commencé à apprendre le français, à écrire l'arabe, etc. Et malheureusement, il y a quelques années, elle est partie. Elle a eu un cancer foudroyant. Et à 57 ans, Dieu a repris son âme, la Rahma, et essaie de faire en sorte que chaque jour que Dieu m'offre, elle continue à être fière de moi. Et puis mon papa, qui est toujours là, qui est ma boussole, qui est vraiment mon plus grand soutien, et aussi quelqu'un qui... je crois que je vis presque pour rendre fiers mes parents. Mmh. Et puis, il y a des rencontres positives, mais il n'y a pas que ça. Mmh. Il y a aussi des rencontres qui vous tirent vers le bas.
Ça, c'est vrai.
Il y a parfois des rencontres où il y a dans votre entourage, parfois le plus proche, des personnes qui vont vous dire que vous n'êtes pas capable, qui vont renforcer vos croyances limitantes, qui sont un peu toxiques dans leur façon d'être et qui vont briser votre élan et vos rêves, qui vont limiter votre champ des possibles et qui vont véritablement être une barrière dans ce que vous êtes. Et puis vous dites peut-être qu'ils ont raison, ça va prendre du temps et puis vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose au fond qui n'est pas vous. Et puis vous réalisez que la vie est trop précieuse et puis vous décidez aussi de dire qu'à un moment donné, non, je peux pas. Ma vie est trop précieuse pour faire en sorte que ce soit d'autres qui la définissent. Et donc moi j'invite vraiment vos auditeurs et vos auditrices d'identifier ces personnes toxiques et de les blacklister, de les retirer de votre vie, de les... Vous ne pouvez plus garder un contact, on va dire, amical, poli. Mais surtout, entourez-vous des gens qui vous poussent à déployer vos ailes, qui croient en vous, qui sont dans le soutien, parce que la vie est trop précieuse. Et en réalité, la vie professionnelle, ce ne doit être que le reflet de vos aspirations les plus profondes qui sont en vous. Je n'aime pas cette distinction, vie privée, vie professionnelle. En réalité, ça doit être un tout. On ne met pas sa vie en parenthèse entre 9h et 17h pour après vivre une autre vie à 18h. C'est quelque chose qui est beaucoup plus global.
Ça s'entremêle finalement d'une façon ou d'une autre, même si on essaye de faire la séparation. Mais...
Tout à fait. Et on est tous faits pour quelque chose. Ouais. On a tous un talent pour quelque chose.
Le mot de la fin, cette fois à l'occasion justement du 8 mars, si vous deviez partager un seul conseil avec les femmes qui nous écoutent actuellement ou les femmes de façon générale, qu'est-ce que vous pouvez partager comme conseil avec elles?
Alors, la journée du 8 mars, on l'oublie parfois, mais ce n'est pas la fête des femmes.
Ben non, voilà, merci.
C'est la journée internationale des droits des femmes.
Voilà.
Oui, parce que certains vont offrir des fleurs et des chocolats.
Ah oui, mais non, c'est ça. Ce n'est pas la Saint-Valentin, on est d'accord.
Exactement. C'est la journée internationale des droits des femmes. Et la journée internationale des droits des femmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme, elle a une dignité. Elle a aussi le droit de pouvoir avoir une vie qui s'inscrit dans... l'épanouissement personnel. Et le conseil que je donnais, c'était effectivement de s'éloigner de ces personnes toxiques. Mais ce que j'ai surtout envie de dire à vos auditrices en particulier, c'est que ne laissez personne, mais vraiment personne, mettre en doute vos talents, vos compétences, votre brillance. Et je dis à chaque femme que je rencontre, parce que les femmes, elles font preuve de résilience, de persévérance, de détermination, surtout quand elles sont confrontées à l'épreuve et à la diversité, mais de dire combien elles sont fortes, combien elles sont belles, combien elles sont reines, et d'aller jusqu'au bout, quoi. La vie est trop précieuse pour la gâcher, donc déployez votre potentiel, et rêvez, et sachez que l'impossible est toujours possible.
C'est sur ce très très beau message, Fatema Zibouh, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir, d'échanger. Puis je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah.
Mais merci à vous, Karima, et merci d'y contribuer aussi à travers votre belle émission, de mettre en lumière plein de portraits. Et je les découvre et c'est aussi inspirant pour moi. Donc merci pour ce que vous faites.
Merci
vous êtes
beaucoup.
Également une actrice de changement. Merci.
Merci beaucoup, Fatema. Tout le plaisir est pour moi. À très bientôt, Inch'Allah.
À bientôt.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.